Bonjour David, de votre boutique Cuir et Chuchotement. Merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre expérience cet épisode consacré aux artisans du BDSM. Dans un premier temps, je vous invite à vous présenter et à nous dire quelles sont vos diverses activités.
Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas et de m'avoir invité. Je suis David, je gère la boutique Cuir et Chuchotement, en tout cas l'artisanat Cuir et Chuchotement. Je fabrique essentiellement des articles BDSM en cuir, colliers, menottes, martinets, voilà, diverses choses. C'est mon activité artisanale, on va dire.
Est-ce que vous pouvez préciser votre âge, éventuellement votre région?
Oui, bon, j'ai 50 ans. Et je suis en Normandie, dans la région de Rouen, enfin dans l'agglomération de Rouen.
Depuis combien de temps faites-vous cette activité d'artisanat?
Alors, j'ai commencé en 2019 et je suis micro-entrepreneur inscrit à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie depuis 2020. Donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant que je suis réellement artisan, entre guillemets.
D'accord, c'est une activité qui fonctionne bien, qui marche bien.
C'est une activité qui fonctionne bien, qui fonctionne même de mieux en mieux. Là, j'ai créé mon réseau. Et puis avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, mon compte a pris un peu plus d'ampleur. Et donc je suis un petit peu mieux référencé, on va dire. Et du coup, ça marche bien. Enfin, je suis content.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et nous dire ce qui vous a amené à fabriquer des objets pour la pratique du BDSM, ce qui peut paraître étonnant, de prime abord, en tout cas, c'est un marché de niche, on pourrait penser, en ce qui concerne le cuir.
Oui, tout à fait, c'est un marché de niche. J'ai commencé tout à fait par hasard. J'avais envie de créer de mes mains. J'avais des amis qui sont eux-mêmes artisans dans le bois, dans le métal, dans la laine, différentes choses. Et j'avais envie de créer de mes mains. Je trouvais l'ambiance de l'atelier assez sympathique, l'utilisation de certains outils aussi. Et puis, je me suis lancé par hasard. J'ai acheté un kit d'outils sur Internet pour travailler le cuir, parce que je me suis dit que le cuir pouvait être intéressant dans divers domaines d'ailleurs. Et j'ai acheté un kit d'outils et puis je me suis lancé et j'ai créé un collier BDSM. Alors pourquoi l'imagerie BDSM et l'esthétique BDSM m'intéressaient? J'étais pas forcément pratiquant moi-même. Donc j'ai créé un premier collier qui était vraiment tout pourri, je peux le dire aujourd'hui. Mais j'étais déjà content de moi et puis j'ai continué parce que la matière m'a plu, le contact de la matière m'a plu, les outils m'ont plu. Et j'ai continué comme ça, et voilà. Et petit à petit, on apprend aussi, on se développe, et on développe des compétences, et on se découvre des talents qu'on soupçonnait pas.
D'accord. Et donc aujourd'hui, vous ne fabriquez plus que des objets à destination des pratiquants BDSM, ou vous fabriquez aussi autre chose à la demande?
Pratiquement, oui, je peux fabriquer autre chose à la demande. Alors, sur mon site, j'ai notamment de la petite maroquinerie, des ceintures, mais effectivement, c'est. Je me suis engagé dans cette voie-là et c'est vrai que quand on commence à être référencé dans cette optique-là, c'est difficile après de partir un petit peu dans tous les sens. Et puis il y a des techniques qui sont un peu différentes aussi quand on fabrique des sacs à main ou je ne sais pas. Donc voilà, donc je suis resté là-dessus effectivement. Mais là, à l'occasion, je peux fabriquer des sacs qui sont souvent destinés à transporter le matériel BDSM d'ailleurs. Mais j'ai des commandes en cours de sacs par exemple pour ça.
Quand vous dites que vous n'êtes pas forcément pratiquant BDSM, c'est parce que c'est un sujet que vous n'avez pas envie d'aborder, ou c'est parce que effectivement, vraiment, c'est juste uniquement l'esthétique particulière de certains objets BDSM qui vous attirait?
Alors, il y a 4 ans, j'étais pas pratiquant particulièrement, effectivement. Depuis, je participe à des. Évidemment, j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré un réseau local. Et depuis, je participe pardon, à des munch and play. Et du coup, c'est vrai que je pratique un peu, ouais, maintenant. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au début et ce qui m'aide aussi pour la création de certains objets, parce que quand on les utilise ou on a l'occasion d'avoir des retours de gens qui les utilisent, bah c'est plus facile de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, la densité de l'objet, etc., etc.
D'accord. Ce qui est assez original de se dire que vous avez découvert le BDSM par le biais de votre activité d'artisan.
Oui, après, peut-être que c'était en moi quelque part, hein, c'est possible, mais
Oui.
je me suis jamais trop posé la question. Mais je pense que si j'avais vraiment pas aimé, je ne serais pas allé là-dedans. Mais oui, c'est arrivé un peu à l'envers, on va dire.
Est-ce que vous pouvez évoquer vos métiers antérieurs ou le métier actuel que vous faites en parallèle de votre activité d'artisanat?
Oui, j'ai donc un vrai métier, entre guillemets, à côté qui m'occupe la plupart du temps, parce que Je suis en micro-entreprise, mais c'est une activité secondaire. Je suis passé à 80% dans mon vrai métier, qui est bibliothécaire. Alors, ça m'a aidé pour la création artisanale, puisque bibliothécaire, c'est rechercher de l'information. Et pour rechercher des tutos, pour rechercher des fournisseurs, pour rechercher des tanneries qui permettraient d'acheter du beau cuir, tout ça m'a aidé pour les recherches, quoi.
Vous n'aviez pas forcément d'expérience auparavant dans la maroquinerie. Pourquoi ce matériau-là en particulier? Il y en a plein d'autres. Enfin, il y a des gens qui fabriquent dans les artisans BDSM, il y a des gens qui fabriquent des meubles, il y a des gens qui fabriquent des
Eh
objets.
bien, parce que j'ai trouvé que le cuir, on pouvait démarrer avec peu d'outillage. Quand je disais que j'avais des amis qui étaient artisans eux-mêmes, qui travaillaient le bois ou le métal, et je sais ce qu'il faut comme apprentissage, comme diplôme, comme compétences techniques et comme outillage et machine pour travailler ces matières-là. Ce qui n'est pas le cas avec le cuir. On peut travailler le cuir avec une dizaine d'outils, 10-15 outils, on peut travailler le cuir. Après, on peut développer évidemment, mais donc ça me permettait de démarrer facilement, entre guillemets. Et puis parce que je trouvais que c'était une matière intéressante et j'avais d'autres idées au départ, et puis finalement, je suis jamais allé là-dedans. Et donc, je suis resté dans le BDSM. Voilà. Et je m'y
D'accord.
plais.
Super, c'est mieux de faire quelque chose qui nous
C'est
passionne.
mieux, ouais, exactement. Ouais.
Le BDSM ayant une aura un peu sulfureuse, en particulier en France, est-ce que cette activité d'artisan dans le cadre du BDSM vous a eu un impact sur votre famille, sur votre entourage, sur vos amis?
Alors non, j'ai souvent beaucoup de questions mais les gens sont curieux, mais pas négativement, on va dire. Bon, en tout cas, les gens qui discutent avec moi sont pas dans la négativité. Je pense que ceux qui sont pas du tout, qui apprécient pas du tout, viennent pas me voir, tout simplement. Au niveau de mon travail, j'ai eu des questions, des choses comme ça, mais jamais de commentaires négatifs. Au niveau de ma famille non plus, j'ai mes enfants qui savent ce que je fais. D'ailleurs, j'ai mon fils qui passe souvent. Qui passe la tête dans l'atelier, parce que l'atelier se trouve juste à côté de la cuisine, donc forcément, voilà. Il passe la tête, il vient voir, mais il ne me pose pas de questions, mais ils savent. Et puis, autour de moi, ouais, j'ai vraiment beaucoup de curiosité, mais vraiment pour savoir comment ça se passe, quelles sont les relations possibles entre les gens, est-ce que c'est pas de la violence gratuite, vraiment des choses comme ça. Et souvent, les gens comprennent bien et sont assez ouverts, je trouve, finalement. Donc voilà, pour ce que je connais, en tout cas pour les gens que je côtoie.
Pour préciser, vos enfants, ils ont quel âge à peu près?
Alors, mes enfants sont grands, ils ont 18 et 21 ans. Donc voilà, c'est pas des bébés. Mais ils sont au courant. Et j'ai déjà des amis de ma fille qui étaient à la maison quand j'étais en train de faire des choses. Alors, j'ai pas beaucoup de place dans mon atelier, donc parfois je me mets sur la table de la salle. Et qui était là quand je travaillais, qui m'ont posé des questions. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, bon, c'est intéressant, tout ça. Donc, c'est amusant, même les jeunes, hein, sont pas fermés là-dessus.
Et puis à cet âge-là, ils ont la curiosité et l'ouverture d'esprit nécessaires. Il faut imaginer, en tout cas,
Oui,
il faut l'espérer.
ouais, tout à fait. Après, je pense qu'il y a des choses qui. On va parler de 50 nuances de gris, mais je pense que les livres et le film, et les films. 50 nuances de gris, on fait aussi en sorte qu'il y ait une espèce d'ouverture là-dessus et qu'il y ait des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants s'y intéressent ou en tout cas sachent que ça existe et que ce n'est pas forcément négatif et que ce n'est pas de la violence gratuite. Voilà. Je pense que ça a joué aussi sur le grand public, on va dire.
Ce qui n'était pas forcément ce qui était espéré par l'auteur, qui en a une vision négative de ces pratiques.
Oui, c'est une vision américaine. Bon, voilà. Oui, sans doute, mais j'avais fait une formation dans le cadre de mon métier sur la littérature érotique, et des chercheurs avaient travaillé sur le 50 nuances, et effectivement, ça a eu un impact plutôt positif dans le sens où les gens ont pu découvrir des pratiques qu'ils n'envisageaient pas ou qu'ils voyaient effectivement de façon négative, et ils ont changé d'avis sur la question. Donc c'est bien.
Oui, c'est bien. Question annexe, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres artisans, des collègues qui font pour faire des commandes groupées ou pour faire des, par exemple, pour que vous puissiez faire la partie cuir d'un meuble de contrainte, par exemple?
Alors, j'ai déjà eu des discussions avec des artisans, des collègues artisans, sur la fabrication de meubles ou quelqu'un qui travaille l'os et la corne pour faire des manches, par exemple, de martinet. Mais pour l'instant, c'est jamais allé au-delà de la discussion et jamais au-delà de « Ah, ça serait bien quoi Voilà, c'est pas engagé, mais en tout cas, oui, c'est une possibilité. Peut-être dans le futur, ça arrivera. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de travail en binôme avec un autre artisan sur des créations comme ça.
Ce métier, cet artisanat vous plairait au point, si vous en aviez la possibilité, d'en faire un travail à temps plein, ou ça reste une passion, que vous n'avez pas envie de développer plus que ça?
Si j'avais la possibilité notamment d'engranger plus de commandes et plus d'argent, oui, ça serait une possibilité, mais je travaille tout à la main, toutes mes coutures sont faites main, et du coup, c'est un temps qui est incompressible. Donc, je ne peux pas produire en grande quantité vite, ce qui est problématique quand on veut vendre beaucoup. Après, on peut aussi augmenter ses tarifs de façon assez importante, ce qui fait qu'on peut vendre quelques pièces et vendre bien. Et on est sur un autre positionnement après, sur un positionnement un petit peu plus luxe, ce qui n'est pas inintéressant non plus. J'envisage de réduire mon temps de travail à mon vrai métier pour le cuir. J'ai déjà fait une première étape en passant à 80%. J'envisage de le faire parce que j'ai de plus en plus de commandes et que j'ai des délais qui s'allongent et que ça m'embête pour moi et pour les clients. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je suis là-dessus. J'ai du temps un petit peu plus sur le travail du cuir. C'est une envie, mais est-ce que ça verra le jour? Je ne sais pas encore.
Alors, parlons maintenant un petit peu de votre production, hein, votre passion à proprement parler. Alors justement, qu'est-ce que vous fabriquez? Quelles sont les pièces que vous préférez? Quels sont les articles que vous préférez fabriquer et pourquoi?
Je crois que je n'ai pas de préférence de pièces. J'ai beaucoup de commandes de colliers, ça c'est vrai. J'aime aussi faire des liens, des menottes, des liens de cheville. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un ensemble de contraintes qui étaient intéressantes à fabriquer. J'aime bien aussi les challenges parfois, même si des fois je me dis bah, je ne vais pas être capable de le faire. J'ai déjà refusé les commandes parce qu'il y a des choses que je suis incapable de faire ou je ne voyais pas du tout techniquement comment c'était possible de les faire. Ça m'arrivait souvent, mais c'est arrivé. Par exemple, je ne sais pas fabriquer de fouet parce que je ne sais pas tresser le cuir et que je n'ai pas le temps d'apprendre. J'aimerais bien apprendre ça, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. J'aime bien, là j'ai découvert une façon de fabriquer des martinets à la florentine. Bon, ce sont des martinets qu'on utilise à deux mains, avec chacun dans chaque main un martinet. Ce sont des petits martinets relativement courts. J'ai découvert cette technique et j'aime bien fabriquer. J'aime un peu tout en fait. J'aime fabriquer des masques, j'aime fabriquer. Il y a des cuirs que j'aime moins travailler que d'autres, qui sont moins agréables à travailler. Les cuirs vernis par exemple sont très jolis. Mais ils sont assez mous, entre guillemets, et ils sont un petit peu plus difficiles à travailler. Mais c'est vrai que quand on les utilise, après, ça fait un bel objet. Donc, c'est intéressant aussi de les utiliser. J'ai pas d'objet préféré. C'est vraiment la matière elle-même qui m'intéresse. Et quand on utilise des beaux cuirs, ce que j'essaie de faire en tout cas, j'utilise des cuirs qui viennent d'Italie, et aussi des cuirs de France. J'utilise des cuirs de saumon qui viennent de France, par exemple.
Des cuirs de
Euh,
saumon.
des cuirs, du cuir de saumon, tout à fait. Alors,
Ouais.
j'en ai pas vu beaucoup en BDSM qui utilisaient ce genre de cuir. C'est un cuir très fin, mais qu'on utilise en doublure avec un autre cuir de vache classique. Et ça donne un aspect particulier, effectivement, ça a un côté un peu serpent, on va dire. Et c'est une start-up lyonnaise. Il y en a d'autres en France, mais là où je me fournis pour l'essentiel, c'est là, une start-up lyonnaise, pardon. Et ça fait des belles peaux avec des belles couleurs et des beaux reflets. Enfin, ça change un peu. Pour les autres cuirs, effectivement, j'achète des cuirs dans une tannerie en Toscane. Et ces cuirs-là sont très agréables à travailler, sont de très belle qualité, qui prennent une belle patine. Et du coup, c'est vrai que quel que soit l'article, hein, j'ai envie de dire que je vais faire avec, de toute façon, j'apprécie travailler ces cuirs.
D'accord,
Voilà,
on sent que
réponse un peu de Normand, mais.
non, pas forcément, on sent que c'est le matériau qui vous plaît.
Ah oui, ben, j'ai pu tester au début quand j'étais pas en tannerie, j'étais sur une boutique qui vendait un petit peu de tout. Et quand j'ai acheté la première fois dans cette tannerie-là et que j'ai comparé les cuirs et que j'ai commencé à couper dedans, j'ai senti la différence et je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec ce que j'utilisais avant et que c'était beaucoup plus agréable aussi à travailler. Donc forcément, on prend du plaisir quand on travaille une belle matière,
D'accord.
quelle qu'elle soit, je pense.
Et par rapport à vos clients, qu'est-ce que vous préférez, vendre des objets que vous avez créés vous-même ou vendre ou fabriquer des objets qui vous ont été demandés sur mesure et qui correspondent à un besoin particulier?
Alors, j'aime bien, effectivement, quand les clients me demandent un objet spécifique, particulier. Parce que j'aime bien aussi être un peu conseil, donner des conseils sur les choix de couleurs, les choix de fils, le mariage entre les fils et les cuirs, entre les, enfin, voilà, différentes choses, ou entre la bouclerie et la couleur du cuir. Enfin, j'aime bien être aussi un peu conseil là-dessus. Après, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, et de toute façon, voilà, on sent dans la discussion que de toute façon, ils sont focalisés sur une couleur en particulier ou sur une esthétique en particulier, donc il n'est pas question de leur faire changer d'avis. Mais quand les gens ne savent pas trop, parce que j'ai aussi bien des gens qui débutent et qui n'ont jamais trop utilisé ce genre d'objet, comme des gens qui sont vraiment très très pointus et très connaisseurs. Donc j'aime bien avoir les deux côtés et j'aime bien. Bah après, quand je fabrique des objets, je fabrique essentiellement à la commande et sur mesure. Soit des choses que j'ai effectivement sur mon catalogue, soit des choses qu'ils ont vues sur mon catalogue mais qu'ils veulent faire modifier, soit des choses qu'ils n'ont pas vues sur mon catalogue et qui me demandent spécifiquement.
D'accord. Maintenant, j'aimerais bien que vous me donniez une idée de votre, enfin, du marché sur lequel vous êtes. Est-ce que vous avez une vision du marché des artisans, ou des accessoires BDSM en France? Et est-ce que vous avez une connaissance de ce qui peut se faire dans d'autres pays? Est-ce que ça a un impact sur votre travail?
Alors, je me garderais bien d'avoir enfin, je pense pas avoir une vision globale sur tous les artisans français parce que je connais pas tout le monde. J'ai déjà fait des salons, notamment il y a fin septembre en Normandie, on a eu un salon fétiche chez BDSM qui était le premier dans la région où j'ai pu rencontrer des artisans que je suivais déjà, artisans qui travaillent le bois, qui font des paddles en bois, artisans qui fabriquent des martinets, des menottes, etc., mais en caoutchouc surcyclé. Des pneus de vélo, de voiture, de tracteur, etc. Ce qu'on appelle l'upcycling en anglais, mais en français c'est surcyclé. Et donc ils utilisent ces objets-là, enfin ces déchets-là, entre guillemets, pour les transformer et leur donner une nouvelle vie. Ils font des très belles choses et en plus ils sont très sympas. J'ai pu rencontrer aussi une créatrice de vêtements latex que je connaissais via les réseaux, mais je n'avais jamais rencontré. Donc voilà. Il y a vraiment différentes choses. Il y a des gens qui utilisent, comme je vous disais tout à l'heure, de la corne et de l'os pour fabriquer des objets BDSM. Certains le bois pour faire des paddles, pour faire différentes choses. Certains le métal. En France, il ne me semble pas en avoir vu beaucoup. Je connais un artisan allemand là-dessus, faire des colliers, des contraintes en métal. Après, effectivement, je ne connais pas tous les artisans, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés sont souvent des petits artisans, entre guillemets, ce ne sont pas des grandes, c'est pas l'industrie, quoi. Soit des couples, soit des individus. Et ça reste des créations de niche, mais il y a un marché dessus, effectivement. Les gens ont envie aussi d'avoir des choses faites en France, avec des matériaux de qualité. Ils sont prêts à mettre un petit peu plus cher là, pour ça. Parce qu'il y a une démarche derrière, c'est pas juste acheter sur Wish. Alors, je vais pas faire de la pub pour Wish, mais c'est pas juste acheter sur Shein ou Wish et d'utiliser des objets fabriqués en très très grande série, mais qui n'ont pas d'âme. Je pense que les gens, hein, sur cette pratique-là, en tout cas, ont envie d'avoir des objets comme ça. Après, il y a aussi des gens qui vont acheter sur Amazon, etc., ou sur Wish. Je vais en citer trois, ça c'est fait. Qui vont avoir envie d'acheter un objet qu'ils vont avoir rapidement. Mais souvent, ce sont des gens qui ne pratiquent pas beaucoup, qui débutent. Et quand ils voient que les objets ne sont pas de qualité, ne sont pas la bonne taille, vont casser très vite, à ce moment-là, ils vont se retourner vers des artisans en France ou à l'étranger, mais qui vont permettre d'avoir des objets plus solides et plus leur correspondant vraiment.
Je voudrais que vous puissiez me parler éventuellement de votre réseau, comment vous avez construit votre réseau, comment vous trouvez vos clients.
Alors, mon réseau, je l'ai construit en rencontrant des gens tout simplement lors d'un munch, de quelques munchs qui se sont déroulés à Rouen. Et puis, j'ai rencontré des gens comme ça qui me suivaient sur les réseaux, qui avaient vu ma boutique. On a discuté, on s'est rencontrés lors d'une autre soirée où là, c'était un munch and play organisé dans l'heure, dans une grande demeure. Et puis par la suite, ils ont eux-mêmes organisé des soirées privées auxquels ils m'ont invité, et puis ils ont créé une association par la suite, dont je fais partie maintenant, qui s'appelle le Carré Noir. Et cette association organise des soirées. Donc, ces soirées, effectivement, ça permet aussi de rencontrer des gens, des potentiels clients, entre guillemets, même si je n'y vais pas pour ça. Mais en tout cas, les gens peuvent me voir, me rencontrer, discuter. Des fois, je viens avec des articles que j'ai sous la main parce que j'en ai fait un petit peu en stock et ça m'a permis de les avoir en main. Parce que le contact physique avec l'objet et la matière, ça compte aussi. Ça, c'est une chose. Donc, ça m'a permis, moi, de créer mon réseau dans la région, dans la grande région, on va dire. Et pour les clients, ils me trouvent eux-mêmes souvent. C'est-à-dire que j'ai déjà vendu en Australie, en Colombie, aux États-Unis, en Finlande, et ces gens-là m'ont commandé sur mon site, soit en me suivant sur le réseau, soit pas du tout. De bouche à oreille, parfois aussi un peu. Parce que des gens ont vu, lors d'une cérémonie, lors d'une soirée, ils ont vu à l'autre bout de la France quelqu'un qui portait une de mes créations. Et puis ils ont discuté, et puis ils ont donné mon nom et ils viennent me voir après. Ça joue aussi.
Le réseau joue beaucoup dans ce domaine-là.
Oui, parce que si les gens sont contents de l'objet, du contact qu'ils ont eu avec l'artisan, forcément derrière, ils vont en parler plus facilement et ils vont faire de la pub, entre guillemets, en tout cas, en disant, en vantant la qualité de l'objet, du cuir. Et voilà, donc ça compte.
D'accord. L'interview touche un peu à sa fin. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose à ce que vous m'avez déjà dit? Avez-vous un message à faire passer, un sujet qui vous tient à cœur?
Eh bien, le message, c'est n'hésitez pas à vous renseigner sur le BDSM, allez voir des gens. Ces gens-là ne mordent pas, enfin, en tout cas, pas de prime abord. Ce sont des gens, moi, j'ai trouvé des gens sains, des gens très ouverts, des gens très respectueux, plein de bienveillance aussi. Et ça compte. Et franchement, quand j'y suis allé les premières fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, on a toujours une vision un peu, les gens sont habillés en noir, ils sont, voilà. Ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. Et c'est vrai que c'est une communauté assez ouverte et sympathique. Et voilà, ce sont des gens équilibrés et intéressants en plus, bien souvent. Donc n'hésitez pas, si vous avez une envie de BDSM, contactez des gens, n'hésitez pas à aller voir des munchs et par la suite, qui sait, vous pratiquerez.
Eh bien, David, je vous remercie de nous avoir parlé de votre métier, votre passion. Je vous remercie d'avoir accepté donc mon invitation. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup, merci de votre invitation et puis au plaisir. Merci beaucoup.